Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polotech
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Nathalie Azan-Brunet, commissaire de l'exposition Marian, la ménagerie humaine, qui est actuellement présentée au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Cette exposition que vous aviez en projet depuis de très nombreuses années, Nathalie Azan-Brunet, permet de découvrir ou de redécouvrir les peintures et dessins de ce peintre, de son vrai nom Pinchas Burstein, né en 1927 en Pologne et mort en 1977 à l'hôtel Chelsea à New York. Nous reviendrons avec vous sur sa biographie un peu plus longuement. Ce qui est important de savoir, même s'il refusait d'être réduit à cette expérience, c'est que Marian a subi de plein fouet la barbarie nazie. Il est le seul rescapé de sa famille. Il a survécu au ghetto et au camp, mais en est sorti mutilé. L'expérience concentrationnaire et ses conséquences sont au cœur de son œuvre, notamment dans ses carnets de dessins qui sont, je crois, à l'origine de cette exposition.
Oui, en fait, nous nourrissions le projet depuis de longues années sans trouver l'entrée. L'an dernier, nous avons appris par des collègues du Centre Pompidou que la veuve de Marian, Annette Marian, venait de faire don au MNAM des neuf carnets autobiographiques de son mari, ainsi qu'une série de très beaux dessins des Napoléons. Quand nous avons pu consulter les carnets, c'est tellement bouleversé que nous avons conçu l'exposition à partir de ces carnets.
Des carnets qui ont une histoire assez incroyable.
Qui ont une histoire incroyable dans la mesure où c'est probablement un ensemble tout à fait exceptionnel dans l'art du XXe siècle. Ce sont 9 carnets qui ont été réalisés par Marian à la demande de son psychanalyste, face à son silence en 1971. 1972, donc une année durant, comme homework quasiment, Marian va remplir ses carnets, des carnets à l'encre de Chine dont on a l'impression qu'ils sont faits comme d'un seul trait, des dessins très aboutis, pas du tout des dessins rapides comme ça jetés sur le papier, ce sont des dessins très composés qui sont toujours accompagnés du moins jusqu'au 7e carnet de commentaires. Et c'est des carnets que Marian a appelé son Ecce Homo, voici l'homme, se référant au Christ présenté à la foule par Ponce Pilate. Donc il se met en scène depuis l'enfance jusqu'au moment où il réalise ses carnets et c'est proprement... étonnant. Finalement, il n'y a que Jackson Pollock, dont on connaît une série de 63 dessins faits au moment d'une psychanalyse jungienne. C'est un ensemble de 478 dessins qu'on présente 8 carnets sur 9, et ils donnent finalement une clé, ils égrènent tous les motifs de la peinture. On peut replacer la peinture a posteriori, puisque maintenant nous les présentons à la fin du parcours de l'exposition. On peut retrouver tous les motifs de l'œuvre, toutes les obsessions, puisque c'est pas une BD, c'est pas vraiment une autobiographie, c'est plutôt une série de visions, c'est des salves de visions comme ça, qui au fil des carnets deviennent de plus en plus obsédante, saccadée, et les dessins commencent très paisiblement. En fait, il présente sa famille, la vie traditionnelle qu'il menait, les rituels juifs, et puis petit à petit on rentre dans une sorte de terreur, une terreur qui se fait jour.
Pour cette exposition, vous avez entrepris des recherches biographiques approfondies parce que Marion a beaucoup brouillé les pistes, peut-être dans la volonté de rompre avec ce passé. Il a changé de nom, il a changé plusieurs fois de pays, il a inventé un accident de tramway pour expliquer son amputation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord de sa biographie et comment vous avez fait pour justement démêler le vrai du faux ?
Alors, on était aussi prise, puisqu'on est des filles, mais prise dans la légende de Marion, ouais. La légende qu'il a entretenue justement pour brouiller les pistes, parce qu'on peut dire que jusqu'à son arrivée aux États-Unis en 1962, il n'a jamais parlé. Tout le monde savait, mais il n'a jamais parlé. Et de fait, on a eu accès à des archives importantes et aussi à des documents, à des documents inédits où sa biographie est retracée par lui-même d'ailleurs, et où on a pu retracer son parcours dans les camps, notamment tout son parcours dans les camps. Donc c'est vrai qu'on a pu finalement déjouer certaines légendes, notamment sur sa mutilation, sur son amputation, donc je crois que c'est probablement qu'un premier pas, hein, puisque le travail qu'on a fait est tout à fait nouveau, mais je crois que on a jeté une certaine lumière sur la biographie de Marion. Donc on sait notamment le moment où sa famille s'est séparée, où ils se sont séparés, où il s'est retrouvé avec son père dans des camps de travail. On sait qu'il est allé dans un camp de Postkov pour comme ouvrier spécialisé, il avait 16 ans. On sait qu'il est allé à Auschwitz.
Avant un événement, excusez-moi de vous interrompre, un événement important, puisque c'est justement oui, quand un il motif.
Est en, oui, quand il est enfermé dans le ghetto de Chejov et qu'il est sélectionné avec 22 autres juifs pour être exécuté sur la place Poniatowski par deux nazis ivres, dont il se rappelle très bien les noms, Esther et Gavron. Et là, c'est la première fois qu'il survit. Tous sont exécutés, les nazis s'y reprennent à plusieurs fois. Et lui reçoit une balle dans la nuque qui lui traverse la gorge, et aussi une balle dans la figure, sous l'œil. Et il feint d'être mort, il ne respire pas, et il est récupéré quelques heures plus tard par un membre du conseil juif du ghetto. Il est hospitalisé et soigné. Donc c'est la première fois où il va survivre. Il va survivre une deuxième fois après une marche de la mort. Il arrive au camp de...
Il est ensuite envoyé à Auschwitz, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, après avoir survécu à cette...
Il est envoyé à Auschwitz, ouais. Zigeunerlager, et ensuite de là à Gleiwitz, où il est soudeur. Ensuite, à l'approche de l'armée soviétique, les camps sont évacués. Donc, il est dans une démarche de la mort, jusqu'au camp de Bleichhammer, où là, le camp leur semble à ceux qui parviennent totalement désertés. Et ils rentrent dans les cuisines. Marian écrit que c'est un... Depuis les miradors, des Allemands leur tirent dessus. Et de fait, ce sont des escadrons de la mort qui sillonnaient les camps et qui liquidaient tous les survivants. Donc là encore, Marian est exécuté et il est blessé à la jambe droite. Ses camarades le récupèrent et 4 jours plus tard, les soviétiques libèrent le camp, emportent Marian à Chestochova. Là, il est amputé de la jambe droite et dans un de ses carnets, il appelle Chestochova City with Hope, la ville de l'espoir. On ne sait pas si c'est son humour ravageur ou c'est aussi l'espoir qu'il y nourrissait d'entreprendre des études artistiques en Pologne, puisque très tôt, il avait manifesté un don pour la peinture, un véritable goût pour le théâtre. Donc, il est dans un foyer pour handicapés à Częstochowa. Il y a une photo de lui qui est conservée à Lochame Getaot, qui bouge des combattants des ghettos. On le voit au milieu d'autres personnes mutilées. Il a l'air d'un poussin, il est bouleversant. Et il y a une flambée antisémite à Częstochowa en 1946. Ils sont tous obligés de partir. Et là, ils se retrouvent dans des camps de personnes déplacées en Allemagne. Je ne sais pas où, d'ailleurs, il n'y a pas de... Là, il y a deux choses qui sont racontées. Alors, est-ce toujours cette légende qui court ? Mais il y en a une qui est très importante et qui, si elle est de l'ordre du fantasme, elle joue un rôle central dans son œuvre. C'est qu'il dit avoir appartenu à une brigade de trac de nazis. Je vois mal Marian, jeune homme handicapé, participant à ce genre d'opération. Mais de fait, toute son œuvre va être traversée par cette terreur que la victime devienne bourreau. Et l'autre chose qui est importante, mais qui de fait est tellement cohérente dans son parcours, simultanément, il dit avoir travaillé à des mises en scène de théâtre dans les camps. Et là, il sympathise avec un représentant de l'agence juive qui lui conseille de rejoindre la Palestine pour y étudier et vivre dans un kibbutz. Il part, il s'embarque pour Haïfa. Il arrive en 1947. Et là, il raconte qu'il se retrouve seul. On tamponne handicapé sur ses papiers. Il dit se retrouver sur un tas d'oranges dans le port. Personne ne l'attend, il croit être attendu. Et de fait, il dit à ce moment-là, dans les camps, je n'étais jamais seul. Et là-bas, je me suis retrouvé tout seul. De fait, lui qui nourrissait l'espoir de rejoindre une école d'art se retrouve dans une maison de repos pour personnes âgées. On voit aussi un dessin où il est avec ses béquilles et puis des personnes... Lui dit un asile, on dit que c'était une maison de repos. Et puis il parvient à s'inscrire à l'école de Bezalel, où là il va avoir comme professeur les deux maîtres de l'époque, Mordechai Yardon et Jacob Steinhardt. Et il va se lier avec un groupe d'artistes comme lui, rescapés, comme Avigdor Aricha, et aussi un homme qui a disparu très tôt, qui s'appelait Marion Marinel. Donc il se constitue dans un groupe très homogène, parce qu'ils ont l'impression d'être incompris par ceux qui les entourent.
Voilà, ensuite, donc, ça va être la France.
Ensuite, bon, il est soutenu, il y a la guerre d'indépendance là qui va réveiller ses pires terreurs. Lui qui pensait arriver dans un pays de lait et de miel, ouais. Et de plus, comme il est handicapé, il ne peut pas, comme la plupart de ses camarades, prendre part à la défense de Jérusalem. Mais on le voit dans ses dessins se battant contre un ennemi mal identifié. De temps en temps, c'est la police polonaise, de temps en temps, c'est un nazi, de temps en temps, c'est un juif. On sent qu'il y a une confusion.
Parce qu'il y a des carnets sur cette période-là.
Ça s'appelle The Battle of Jérusalem. Il appelle ça la bataille de Jérusalem. Et on le voit se battant même contre Balak, chien fou, le héros de Agnon. Et comme tous les artistes israéliens de l'époque, Paris est une destination, comme pour tous, c'est une destination privilégiée. Et donc Marian, aidé par une critique qui s'appelle Myriam Tal et par un certain nombre de collectionneurs, va partir pour Paris. Et c'est là où il va changer son identité pour avoir des papiers de réfugié polonais. Il va se faire appeler Marian Bergman. Il va être ensuite jugé pour usage de faux papiers et il va recevoir le droit de s'appeler Pinchas Burstein Timarian. Et il va pouvoir rentrer à l'école des Beaux-Arts dans l'atelier de Fernand Léger et étudier la lithographie. C'est à ce moment-là, on est en 1950, il va illustrer le procès de Kafka. Ça sera un peu son entrée dans le monde de l'art parisien et ça sera par Kafka, ce qui n'est pas tout à fait un hasard. Voilà. Il restera à Paris jusqu'en 1962. Et en 1962, il va s'installer à New York à l'instigation de Herman Spertus, qui est un collectionneur et un mécène de Chicago. Et les premières années new-yorkaises vont être intenses, très créatives. Et dès 1969, il va être rejoint par toutes ses peurs, par le passé, et peut-être aussi par le silence auquel il est forcé à New York. Voilà, il y a très peu d'échanges avec des anciens, avec des rescapés, avec des survivants, et il s'y perd. Et à partir de 69, il va commencer à parler en 71.
Avec cette thérapie
En 1971, il va entamer une thérapie avec ce psychiatre qu'il appelle le docteur Quinn et qu'il transforme en tête de mort, enfin qu'il malmène à peu près autant que toutes ces créatures. Et il va s'y tenir, mais comme il dira plus tard dans un film qui s'appelle aussi Ecce Homo, it didn't help. Cela ne m'a pas aidé.
On va revenir dans un instant à ce film. Ce qu'on voit dans les tableaux qui sont donc présentés au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, c'est que pour ceux qui sont réalisés dans les années 50 ou 60, la question de la Shoah n'est pas forcément visible a priori, et pourtant il y a de nombreux motifs récurrents qui montrent que c'est une question qui parcourt toute son œuvre.
Alors, ce qui est très étonnant, c'est que quand il est à Jérusalem, là, il se livre à un véritable exorcisme. C'est-à-dire qu'il peint ce qu'il appelle le crématorium, qui de fait est la chambre à gaz. Il peint des portraits de rescapés.
Donc la période de l'après-guerre
De 47 à 50.
D'accord.
Et Mordechai Ardon avait, par exemple, l'habitude de... Pour représenter les victimes de la Shoah, peigner des oiseaux morts. C'est quelque chose qui va aussi hanter Marian. Donc, il peint des oiseaux morts. Enfin, son œuvre est dans ses premières années une œuvre d'exorcisme. Très bizarrement, quand il arrive à Paris, en 1950, Paris est le haut lieu de l'abstraction. Et comme beaucoup de survivants, il y a chez Marian... une volonté de ne pas renoncer à la figure humaine, en tout cas de ne pas la malmener. Et donc, alors que ça n'est pas du tout en vogue au moment où il arrive à Paris, il peint une série de rabbins, une série de natures mortes juives, comme ça assez schématique, assez graphique. Ces rabbins bénissent, mais sont aussi des sortes d'imprécateurs. On a l'impression aussi, quand ils font la bénédiction des Kohanim, qu'ils font haut les mains. Il y a tout un jeu sur ces figures rabbiniques qui sont tous entourés, ligotés de tefillin. Il y a une utilisation des bandelettes, des bandelettes comme presque d'une sorte de... c'est un ligotage, une sorte de prison. Et puis, il passe à l'abstraction, retourne à la figuration. Il n'y a pas une évolution. Il n'y a pas une évolution vers l'abstraction, puis un retour à la figuration. Les périodes se succèdent de manière tout à fait étonnante. Mais c'est vrai qu'il est proche, à l'époque, d'artistes comme Jean-Michel Atlan, dont l'abstraction est loin d'être dogmatique. Elle est complètement nourrie d'art primitif, d'art aztèque. C'est une abstraction de celle des figures monstrueuses, et des figures comme ça assez archaïques. Et il est très proche d'Atlan. Et il va faire ensuite une série de chevaliers un peu armurés, comme ça, post-cubiste. Et puis, il va être très lassé du débat abstraction-figuration qui règne en maître à Paris. Il va être associé de manière un peu éphémère à un groupe qui s'appelle La Nouvelle Figuration, à partir de 1960. Il y a deux expositions et la rencontre des artistes est un peu étrange. C'est un peu un fourre-tout, mais un fourre-tout qui veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des anciens peintres abstraits comme Nicolas de Staël, des anciens du groupe Cobra, des surréalistes dissidents. Il pense qu'à New York, il va pouvoir trouver un climat et des compagnons de route qui ont la même préoccupation que lui, c'est que la peinture signifie. Témoigne. Et de fait, quand il arrive à New York, il se trouve très proche d'un groupe d'artistes, notamment de Chicago, qui sont très engagés contre la guerre au Vietnam. Et pour lui, guerre du Vietnam, massacre de My Lai, tout ça vont d'un seul coup prendre sens. Il va pouvoir associer ce qu'il a vécu à cette guerre qui est en cours. Et d'ailleurs, il dit qu'il a quitté Paris aussi parce que la guerre d'Algérie était trop présente. Donc, dans un premier temps, c'est vrai qu'il va mettre en place, et c'est ça qui a été finalement le fil conducteur de l'exposition, s'il va mettre en place une sorte de théâtre, un théâtre où tous les personnages de son univers vont nous faire face. Toute sorte d'humanité avilie, corrompue, autosatisfaite, qui pose sur une sorte de scène. Il est le seul artiste de sa génération à représenter une scène, une perspective scénique, une boîte scénique dans laquelle il pose ses personnages qui nous interrogent. Et c'est vrai que pour moi, c'est la dimension théâtrale de Marian qui est la plus évidente. Et c'est vrai qu'il y a une phrase de Max Beckmann que j'aime beaucoup et qu'il écrit au retour de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Il dit: si l'on conçoit tout cela et la guerre comme une scène dans le théâtre de la vie, eh bien toutes ces choses deviennent beaucoup plus supportables. Et on a l'impression, et je pense que c'est quelque chose d'éminemment juif. Je vois depuis Chagall et le théâtre yiddish où il met, au moment du départ de l'exil, il met toute sa vie en scène dans les décors du théâtre du yiddish. Je trouve qu'il y a chez Marian une volonté comme ça de mettre sa tragédie sur scène, de faire de sa vie une sorte de farce tragique et dénonciatrice.
On va maintenant parler de ce film que vous présentez également, qui a été réalisé par Marian en 1975. Vous nous le disiez, Nathalie Azambounet, il a, pendant des décennies, il n'a pas parlé ni de son expérience dans les camps, ni de ses parents qui sont donc disparus pendant la guerre. Vous montrez dans l'exposition notamment des extraits qui sont absolument saisissants, où il parle de la culpabilité d'avoir survécu et la peur, vous en parliez, de devenir bourreau à son tour. Comment on peut décrire ce film? C'est un témoignage? C'est une œuvre d'art? C'est une catharsis?
C'est encore une mise en scène. C'est-à-dire qu'il se présente en homme de douleur. Bon, le film s'appelle Ecce Homo. Il est emprisonné dans une camisole de force marquée de l'étoile de David, et il va parler mais entravé. Et sur le magnifique chant qui débute ce film, on lui enlève un bouchon de de la bouche et il commence à parler. Mais il le dit à la fin du film, il dit « Maintenant, il faut que je me débarrasse de tout ça. » Et c'est pour ça que j'ai organisé cette mise en scène. Là encore, on est face à une mise en scène complètement désespérée de soi et qui est aussi complètement accessoirisée. C'est-à-dire qu'il joue avec tous les accessoires du cinéma expérimental de ces années-là pour arriver à dire ce qu'il ne peut, ce qu'il ne peut dire. Et à la fin... à la fin du film, on a montré quelques extraits parce que c'est vraiment extrêmement dur et seules les personnes qui en font la demande peuvent le voir à la vidéothèque du musée. À la fin, il prend une mitraillette en plastique et il se pose la question, est-ce qu'on peut tuer un nazi? Mais un nazi, c'est un être humain. Et devant lui... il y a une série de silhouettes découpées de nazis et il tire avec sa mitraillette en plastique sur les silhouettes des nazis, du même nazi d'ailleurs, et dit « c'est tout ce que je peux faire, c'est tirer sur des mannequins ». Et il se lève à ce moment-là et il va peindre des sortes de larmes, des taches de peinture sur ces mannequins. Et il dit, et cette mise en scène, elle ne m'aide pas, elle ne m'aide pas. Il se rassoit et il dit, et maintenant le spectacle est terminé. Mmh. C'est-à-dire qu'il a inventé toute cette mise en scène qui est d'une sophistication incroyable, juste pour parler. Et il a sa première attaque à la suite de ce film. Qui a été présenté à la Cinémathèque de Paris en 1975. Je me souviens extrêmement bien de l'invitation, pas du film, je ne suis pas allée le voir, mais je me souviens que ce film se situait complètement dans le courant du cinéma expérimental qu'on commençait à aborder dans ces années-là. Et il avait peur. Il avait peur de ce film et dans les archives que j'ai pu consulter. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de scrupules à le montrer dans sa totalité, ce n'est pas une œuvre d'art, comme vous le disiez, en effet, c'est presque un subterfuge. Mmh. Voilà, c'est presque ça. Et je trouve que c'est bouleversant de voir tout ce qu'il met en place pour pouvoir parler. Finalement, on a décidé, après beaucoup d'hésitations, de le présenter... au musée à la fin de l'exposition et de le faire présenter par une personne qu'il a connue et qui est une spécialiste de cinéma expérimental qui a fait notamment toute une biennale sur le cri dans le film d'art et autour de Marian notamment.
Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venue, Nathalie Azan-Brunet. Je rappelle que l'exposition Marian, la ménagerie humaine, est présentée actuellement avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris jusqu'au 9 février prochain. Le catalogue de l'exposition est publié aux éditions Flammarion, c'est bien ça. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net. Thank you.